Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sur la route, qui vous plongera au milieu d'une des manifs contre la loi sécurité globale qui s'est déroulée le 28 novembre dernier dans toute la France. Alors au menu du jour, du témoignage, mélangeant colère, peur et interrogation. Tout ça dans un sacré boxon à base de batoukada. Et puisque le peuple a des choses à dire, je leur laisse volontiers et sans plus attendre la parole et je vous retrouve à la fin de l'émission afin de vous dire au revoir. Bonne manif et bonne écoute.
Je suis militant écologiste dans la Drôme.
D'accord. Alors je t'ai interpellé parce que tu tenais une super pancarte.
Que j'ai fait avec ma fille de 10 ans.
D'accord.
Parce que je voulais pas l'emmener ici. Parce que vu l'ambiance un peu délétère qu'il y a dans les manifs en ce moment, j'étais pas certain que ça soit la place pour les enfants. Mais d'accord. En tout cas, elle voulait participer et donc on a fait la pancarte ensemble.
Et alors qu'est-ce qui a marqué sur ta pancarte ?
Sur cette pancarte, on a voulu exprimer deux notions de sécurité. On a noté... moins de sécurité globale, plus de sécurité sociale. Et ben, ce dont on a besoin dans ces temps de crise, et pas que sanitaire, hein, y a une crise économique et sociale qui dure depuis des années, on a besoin de cette sécurité-là, de pouvoir vivre ensemble, que chacun ait les moyens de vivre, mais on n'a pas besoin d'être plus fliqué, quoi. Et cette sécurité globale-là, elle est insupportable. D'autant plus quand on voit qu'il y a deux poids, deux mesures, voire X poids, X mesures, mais... quand on est pauvre, quand on habite dans les quartiers populaires, quand on est d'origine étrangère, on s'en prend plein la gueule. On a des contrôles aux faciès, on n'a pas accès aux emplois, aux logements, etc. Et puis, quand on est riche, blanc, on peut s'extraire justement de la solidarité nationale en allant mettre son argent dans des paradis fiscaux et autres et plus participer à la solidarité nationale. Et ça, c'est juste insupportable. Cette semaine, elle a été particulièrement difficile... intérieurement. Les images de cette agression du producteur de musique ont été terribles parce que, encore une fois, ça montre qu'il aurait été blanc dans le 17e, à rentrer chez lui tranquille, il n'aurait pas été contrôlé. Et cette violence-là, oui, il y a quatre policiers qui sont sur la sellette et qui vont se faire virer. Mais moi, j'ai vu les images de l'extérieur hier. Il y a qui soient républicaines, qui regardent leurs collègues tabasser, et donc c'est pas que quatre qu'il faudrait. Je mets pas toutes les forces de l'ordre dans le même sac, mais je me demande combien il en reste qui sont républicains. Voilà. Et si on n'a pas un vrai problème, et si c'est pas ça notre problème pour les années qui viennent, de retrouver une police qui soit républicaine.
Alerte, sécurité globale. Alerte, sécurité globale. Gardez vos distances de sécurité avec les matraques. Alerte sécurité. Protégez bien votre visage et des coups de coude.
Alors, je m'appelle Elsa. J'ai habité à Paris longtemps. Je viens d'arriver dans le coin. Et pendant un moment, j'ai pas réussi à aller en manif parce que je m'étais fait agresser par des policiers, par des CRS dans les manifestations à Paris. Et j'avoue que j'ai hésité à venir aujourd'hui parce que j'avais peur. Et avec mes amis, on est venus et en fait, on était assez tremblants avant de venir. Moi, du coup, c'est la première manifestation que je fais en n'étant pas à Paris, quoi. Je suis arrivée il y a 3 mois dans la région. Et donc, j'ai inscrit un slogan qui dit « Darmanin, nique ta bite ». Et pour moi, ça fait référence aux accusations de viol qui visent Darmanin. Et puis, voilà quoi.
C'est déjà pas mal.
Entre autres choses.
Mais alors c'était quel pour te remémorer ce mauvais souvenir, dont je suis désolé de te remémorer ce mauvais souvenir, mais c'était quel manif alors ?
Moi je suis intermittente du spectacle, donc c'était au moment où l'intermittence du spectacle était une fois de plus mise en point d'interrogation. Donc c'était une manifestation devant le théâtre de l'Odéon. C'était très nombreux, intermittentes et intermittents, et pas seulement d'ailleurs devant le théâtre de l'Odéon à Paris. Il y avait une barrière de CRS devant le théâtre, ils étaient extrêmement nombreux, ils faisaient un cordon, comme on appelle ça. Certains et certaines essayaient de discuter avec eux et avec elles. Et il se trouve qu'il y avait une petite fille qui devait avoir 6 ans dans la manifestation devant Odéon. Et ils se sont mis à charger d'un coup, personne n'a compris, à gazer. Et cette petite fille a eu les yeux, enfin voilà, elle n'arrivait plus à ouvrir les yeux, donc c'était très choquant. Et ils se sont mis en fait à nous pousser au fur et à mesure et à entraîner certaines et certains. Et moi, ce jour-là, j'étais en jupe et en collant. Et il y avait un truc ultra malsain dans les regards des policiers vis-à-vis de ma tenue et puis vis-à-vis de... Ouais, c'était extrêmement violent. Et en fait, j'essayais de discuter avec eux. Et en fait, au fur et à mesure, on reculait vraiment centimètre par centimètre. C'était visible, mais presque pas. Enfin, c'était vraiment... Et au fur et à mesure, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais on s'éloignait vraiment très loin du théâtre de l'Odéon. Après, il y a eu d'autres manifs où, devant l'Assemblée nationale, je sais plus pourquoi c'était. À l'époque, j'en faisais pas mal. Je pense que c'était au moment des retraites. Une prise en sandwich en fait sur un pont où il y a un cordon de flics d'un côté, un cordon de l'autre, et puis ils resserrent, et puis à la fin pour gazer, pour nasser, pour voir tabasser. Et on a réussi, Fissa, à sortir du pont alors que juste derrière nous il y a une personne qui se faisait prendre un coup de matraque sur le mollet. Enfin, c'était les hurlements, enfin voilà. Et... This is Funky Brazil. Après, moi, il y a eu d'autres. J'ai porté plainte plusieurs fois dans ma vie et je me suis retrouvée devant des gendarmes, des policiers ultra maltraitants. Ouais, voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'était très. C'était quelque chose, hein, venir en plus. Ouais, c'était vraiment quelque chose. Et puis, au vu du nouveau gouvernement de début juillet, le gouvernement qu'on a entre Dupond-Moretti, qui est avocat des violeurs, Darmanin, qui est accusé de viol, il y a vraiment quelque chose. Et puis maintenant, l'interdiction de filmer les gendarmes, alors que si en fait on se fait agresser par un gendarme, du coup on ne peut pas se défendre, on peut jamais. En fait, on n'a jamais le droit de parler, de dire ce qu'on a à dire sans qu'on ne. On nous croit jamais, voilà. Et il y a vraiment un truc de tant qu'on n'a pas vu, on ne croit pas. Mais même avec des vidéos, on ne croit pas. Donc je continue à parler de violence, d'agression sexuelle et d'agression sexiste, parce qu'en fait tout ça, par exemple, les affaires classées, c'est que des affaires classées sans suite, les unes après les autres, et toutes les femmes ou même les hommes qui portent plainte pour des violences sexistes et sexuelles, en fait c'est des personnes qui, même si elles avaient une vidéo, ne seraient pas crues, même s'il y a des témoins, t'es des témoins, en fait ça change rien. Et c'est pareil aujourd'hui avec les violences policières, donc qu'il y ait une vidéo ou pas une vidéo, de toute façon la justice ne... Comme s'il n'y avait pas de loi pour ça, faite pour ça. Et s'il y a une loi, juste on passe entre les mailles du filet. Il y a un journaliste, je crois qu'il y a 2 ans, qui s'est embrigadé dans la police et qui a fait une enquête. J'ai juste vu des interviews de ce garçon. Et d'ailleurs, j'ai été étonnée de me rendre compte que ce livre a fait peu de bruit, comme par hasard. Et je me suis dit, et lui-même, il est devenu violent. Il est devenu, il disait... Je disais bâtard tout le temps, je devenais ultra violent alors que en fait, j'étais là pour faire une enquête. Et moi-même, après la formation de 6 mois, un an après, à la fin de ma formation, il fallait que je réutilise une arme. J'avais tout oublié, les formations sont minuscules. Et oui, non, c'est intrinsèquement, comment dire, ça fait partie d'eux, la violence, le racisme, la misogynie, l'homophobie. Pour moi, en tout cas, policier, gendarme, militaire, c'est ça. Ça ne peut pas être autrement. Voilà, et c'est peut-être terrible pour le peu et le minuscule pourcentage de personnes qui font bien leur métier et qui savent avoir de la psychologie, avoir de la bienveillance. Mais malheureusement, moi, j'en ai jamais rencontré. Et j'en ai rencontré quelques-uns quand même, et quelques-unes. Donc, ouais.
Ouais, je reprends 30 secondes le micro afin de vous dire que le livre dont Elsa fait référence, il s'agit de celui de Valentin Gendreau qui se nomme « Flic », sorti en septembre dernier. Dans le livre, le journaliste témoigne des dessous de son infiltration de 2 ans au sein d'un commissariat du 19e arrondissement de Paris. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission « Sur la route ». Retour à l'entretien.
Et si je suis venue, c'est parce qu'on voit beaucoup trop de bavures. Après, moi, j'en ai pas connu personnellement, mais je connais plein qui en ont eu. Par exemple, il y a pas longtemps, l'histoire de Michel. Ouais. Et lui, il a eu la chance d'être filmé. Et malheureusement, il y en a plein qui n'ont pas eu cette chance. Et ils ont été condamnés pour outrage à un policier, tout ça. Et bon, bah, comme quoi, ça montre que les caméras, c'est important. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de policiers racistes qui sont contre les... Enfin, qui ne respectent pas les lois. Mais encore une fois, c'est une minorité. Voilà, faut pas non plus tout généraliser. Mais... d'un côté, on peut pas trop appeler ça bavure parce que ça se passe de plus en plus. Voilà, c'est ce que je veux dire.
Pour moi, ça, c'est vraiment une dérive sécuritaire, ce qui est en train de se passer. Je veux dire, à un moment, égalité, fraternité, liberté, c'est normalement les maximes de notre pays. Là, ça fait une sacrée entaille au contrat quand même qu'on est censé poursuivre en France. Donc, ça ne me plaît pas. C'est pas ce que je veux pour mon pays, c'est pas ce que je veux comme avenir, surtout. Ce que tu disais par rapport aux producteurs de musique, je veux dire, je vois pas comment est-ce qu'on peut justifier. Quelles que soient les excuses qui sortiront, non mais on savait pas, non mais on a mal regardé, etc. Tu peux pas justifier. Et puis, le principe de c'est pas tout le monde, il y a des flics gentils. Oui, mais alors pourquoi les flics gentils, ils bougent pas, ils font pas quelque chose contre ces personnes-là? Pourquoi ils les dénoncent pas? Pourquoi est-ce qu'ils bah, ils viennent pas par exemple aux manifs et se font connaître en disant ça va pas, ce qui se passe dans notre police, ça va pas?
Moi je suis Jaillon Gilles. Gilles jaune depuis 18 novembre 2018.
D'accord.
Et je continue à l'être.
Et avant d'être gilet jaune, tu participais à des manifestations comme ça? Tu avais un passé militant déjà?
Non, ça m'est arrivé une fois ou deux, mais bon, là c'est le ras-le-bol, quoi.
Alors, c'était quoi la goutte qui a fait déborder le vase?
Tout. Des capitalistes au gouvernement qui pensent qu'à enrichir les riches. Les ouvriers, on est là, on craint. Par contre, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que si l'ouvrier n'est pas là, les capitalistes, les milliardaires et les millionnaires, ça serait que des merdes si on n'était pas là, nous, ouvriers.
Mais tu vas pas me dire que cette prise de conscience, tu l'as eue en 2018?
Un petit peu, aussi.
Un petit peu. Ah ouais, ah d'accord.
Même beaucoup, parce que bon, à Livron, là-bas, au rond-point de l'Intermarché, j'y restais 12, 13 heures, 14 heures.
D'accord.
Et les gilets jaunes, on n'est pas mort, on est toujours là. Chaque fois qu'il y a une petite manif, que ce soit les infirmières ou les trucs comme ça, on va donner un coup de main.
Je m'appelle Corinne, j'habite au pied du Vercors, pas très loin de Die, et je suis élue à la région.
Alors je t'ai interpellée parce que tu étais avec un groupe de gens qui tenaient des pancartes autour de la thématique du drone. Et pour le moment, personne n'en a parlé des drones, mais ça me paraît être un sujet quand même important.
Alors c'est vrai que moi je suis assez proche du boulot que peut faire la Quadrature du Net par exemple, hein, qui a beaucoup alerté là, depuis des semaines sur le fait que dans ce projet de loi, il n'y avait pas que l'article 24, qui a à juste titre concentré beaucoup les inquiétudes, mais qui avait aussi d'autres articles, notamment le 21 et le 22, 2022 et notamment celui qui effectivement généralise la surveillance par drone avec pas seulement une amplification en fait des moyens de surveillance mais vraiment une bascule dans la doctrine même de la surveillance qui est à peu près la même bascule que celle qu'on a vue sur la doctrine du maintien de l'ordre en fait par rapport aux violences policières. Et je crois que le fait d'habiter un petit village au pied du Vercors où on n'est même pas sur Google Maps, ce qui nous fait beaucoup plaisir, bah, renforce voilà, peut-être la sensibilité à cette question-là. Nous, on a de temps en temps déjà des avions de chasse qui passent autour de nous, des hélicos qui patrouillent pendant le confinement. Et moi, je me dis qu'en fait, si à un moment donné, on en arrive à être entouré de drones quand on va juste se balader en montagne, bah, en fait, ça devient juste insupportable, quoi. Donc, comme je me doutais qu'en plus, voilà, ce serait beaucoup axé sur la question des violences policières, j'avais envie voilà, de mettre aussi le zoom sur cette question-là qui me paraît tout aussi importante par rapport au projet de société et par rapport à l'avenir qu'on nous réserve, quoi.
Sur la route, une série de portraits radiophoniques proposés par l'association Résonance. Pour connaître son actualité, écoutez d'autres portraits, rendez-vous sur le www.facebook.com/associationresonance, R-E-Z-O-N-A-N-C-E. Retour à l'entretien.
Eh ben, je m'appelle Nora.
On discutait en off là justement et tu es venue avec ton téléphone mobile, mais par ailleurs tu m'expliquais que tu étais photographe et dans un but un peu précis d'ailleurs. Est-ce que tu veux bien m'expliquer ça s'il te plaît?
Oui. Effectivement, je suis photographe non professionnelle, donc artistique, on va dire, mais aussi depuis les Gilets jaunes, où j'étais manifestante, mais aussi publique participante. En tant que photographe, j'ai eu envie de faire des reportages pour montrer un peu à mon entourage proche, qui des fois ne regarde pas toujours les médias libres, les choses comme ça, bah, comment ça se passe pour de vrai dans une manifestation. Montrer les jolies choses qui s'y passent, les beaux messages et mes photos vont essayer de faire un genre de petit reportage de ça, des slogans qui sont vraiment des fois très sympas ou très percutants, des visages des gens. Là, ce qui est vraiment frappant aujourd'hui, c'est qu'il y a de tous les âges. Vraiment, il y a des petits jusqu'à des gens, les anciens. Enfin, c'est vraiment très chouette et ça, on prend de l'énergie quoi, aujourd'hui.
Mais alors, c'est super comme idée et du coup, tu parles de ton entourage proche. Tu penses à qui exactement?
Bon, je sais pas, un cousin, une cousine, quelqu'un que je connais comme ça, par comme je diffuse surtout sous Facebook, donc j'ai 400 contacts, donc beaucoup de monde, par mon métier, ma passion de photographie. Donc du coup, je peux toucher plein de gens très différents qui vont pas forcément en manifestation et qui voient que ce qu'on veut bien leur montrer à la télé, dans les mainstream, comme on dit maintenant. Donc moi, c'est une façon de leur montrer, ben non, il se passe aussi des choses bien, il n'y a pas que des casseurs, voilà, c'est pour montrer la réalité du terrain, quoi.
Et ça t'est venu pendant les Gilets jaunes ou c'est quelque chose que tu faisais déjà avant?
Alors j'aime bien la notion de reportage, mais je faisais ça vraiment dans un sens très festif avant, en soirée. Donc là, c'est vraiment, oui, ça m'est venu pendant les Gilets jaunes, j'avais jamais fait de manifestation de ma vie avant, quoi.
D'accord, ok.
Donc c'est venu comme ça, spontanément.
Et du coup, est-ce que ça a fait évoluer? Est-ce que tu as senti dans la caboche de certains que ça faisait évoluer leur point de vue sur, sur les manifestations?
Carrément. Carrément. Il y a des gens qui oui, j'avais pas pensé ça comme ça. À la télé, j'ai vu ça. J'ai dit, ben non, regarde, par A plus B. Dans le Dauphiné, il y a marqué ça. Mais non, j'y étais, j'étais sur place. Il s'est passé ça et ça. Donc oui, non, ça fait réfléchir un petit peu. Et des fois, vu les commentaires, on voit que... Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir, c'est déjà le principal. Et donc aujourd'hui, bah, c'est pour montrer. Surtout, j'ai fait quelques photos un peu du public différent. Et pour que les gens voient, la majorité des gens ont un masque et tout ça. On essaie tous de faire attention. Et je pense qu'il est très important de montrer que ce qui se passe avec cette voix, c'est grave. C'est très, très inquiétant. Et il y a du monde pour montrer qu'on n'est pas d'accord. Donc voilà.
Et alors, est-ce que tu veux bien partager l'adresse de ta page pour que des gens puissent aller voir ton travail?
Oui, bah c'est Photographie Nora Constant. Voilà.
Sur Facebook.
Sur Facebook.
Ok, ok.
Bon voilà, après cette interview avec Nora, je me suis dit que je commençais à avoir une belle matière sonore pour l'émission. Les merguez, en plus, étaient froides ou trop cuites. J'étais donc à deux doigts de mettre les bouts. Mais à ce moment-là, je croise un jeune gars, à casquette, avec une parka rouge, que j'avais déjà croisé sur le net.
Absolument, moi c'est Vincent Verza de la chaîne YouTube Partager c'est sympa.
Alors on te voit quand même beaucoup sur le net, ça marche pas trop mal ta chaîne là.
Ouais mais ça marche toujours pas satisfaisant parce qu'il faut toujours qu'on touche de plus en plus de monde et on est toujours pas assez nombreux dans les manifs comme aujourd'hui quoi.
Ouais, bon après c'est Valence, hein, c'est petit ici quand même.
Je suis peut-être habitué à plus quoi, vu que j'habitais à Lyon tout un temps mais ouais. Quand même ouais.
Moi, ça m'intéressait de te brancher, comme je te disais en off, c'était par rapport à cette loi que par bien des côtés qu'on trouve tous un peu liberticide. Et en fait, il y avait une idée qui me grattait un petit peu derrière la tête, bon, je vais dire ça comme ça. Ouais. C'est l'apparition de ces nouveaux médias, dont tu fais aussi partie, qui proviennent du web.
Ouais.
Et quand même, j'ai cette loi de floutage, etc., je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est quand même vachement dirigé vers les médias sur le web.
Bah, c'est très clair. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a une opération de reséduction des journalistes plus mainstream, disons, qui est menée par le gouvernement, où ils n'arrêtent pas de dire « Mais non, mais vraiment, les journalistes, on les aime et tout. » Et on sait très bien, et Mediapart le démontre très bien, que ceux qui vont vraiment en chier, c'est les journalistes qui sont indépendants, c'est les journalistes qui n'ont pas de carte de presse, c'est juste les citoyens qui décident de faire un travail d'information, de filmer avec leur portable en direct. Et c'est avec ces images-là qu'on arrive à choper tout un tas d'abus en fait, de la police. Et il faut absolument que ça continue. Et c'est clair que cette loi sur le floutage, si elle passe telle qu'elle, c'est un énorme bâton dans la roue de toutes les personnes qui veulent révéler ces violences policières, qui ne sont pas une dérive, encore une fois. Je pense que ça fait partie du système policier. Et on est de plus en plus fragile dans le sens où il y a effectivement cet aspect de flouter les policiers, mais il y a aussi les drones qui vont permettre de contrôler, il y a aussi les GoPro qui vont permettre d'être reliés en direct et donc de la reconnaissance faciale en direct. Et on sait déjà, j'ai des amis à moi qui se font déjà embarquer en détention préventive en entrant tout juste dans une manif. Donc ça, c'est sûr que c'est des phénomènes qui vont aller de plus en plus courants, donc on va avoir de plus en plus peur d'aller en manif. Et non, on va pas vers des jours heureux, hein.
Alors que paradoxalement, le timing est assez bon. Loopsider a sorti cette semaine une bombe atomique avec cette histoire du producteur parisien. Et sans webcam, sans cam, ça aurait été sa parole contre la leur.
Ouais, et j'ai écouté la vidéo de Jamil qui montrait que le 20h avait décidé de flouter les policiers qui tabassent Michel. Ça, c'est une grande blague. Mais non, mais c'est clair. Et moi, ce qui m'énerve dans cette histoire, c'est que. Comment dire, t'as Macron qui fait sa sortie et puis Darmanin aussi en disant vraiment ces trois policiers c'est abusé. Mais putain, moi je vois pas que les trois policiers. Je vois aussi toute la rangée de policiers qui sont venus en renfort et qui ont tabassé ces jeunes à leur sortie. Et je vois aussi évidemment ce qui s'est passé sur la place de la République avec le dégagage des tentes. Et moi ce qui me fait chier c'est qu'ils arrivent à focaliser le discours sur ces trois policiers qui évidemment c'est tellement gros qu'il faut qu'ils sautent. Mais putain, il faut que l'Allemand il saute, il faut que Darmanin il saute, il faut qu'il y ait tellement de choses qui sautent, il faut que juste cette police qui est au-dessus de toutes les règles, il faut qu'elle saute. C'est pas la première fois, cette année on a déjà eu tellement de témoignages, je sais pas si les gens se rappellent, mais on avait cet enregistrement sur Arte de ce groupe sur WhatsApp de policiers ultra fachos. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on n'avait pas les actes qui avaient suivi. Mais les actes, en fait, on les voit tout le temps. Et évidemment, peut-être que les blancs privilégiés comme moi, eh ben, ils le voient moins, mais il faut se rendre compte que ces images de violence policière, le comité Adama, il le dénonce depuis toujours. C'est pas une nouveauté. Et là, oui, il y a une vidéo qui saute aux yeux, mais tout comme le combat de Black Lives Matter aux États-Unis, il faut pas qu'il s'arrête à une seule vidéo. On sait que c'est systémique. Et donc, on sait que la réponse, elle doit être systémique. Bah, ce que je veux rajouter, c'est qu'il faut qu'on soit beaucoup plus nombreux. On n'est pas assez nombreux à porter une parole militante sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Et il faut la relève. Il faut que de plus en plus de gens s'en emparent. Parce qu'il y a tout un travail qui est à faire actuellement sur les fachos, hein, qui ont beaucoup plus une audience auprès des jeunes que des gens comme moi qui parlons plus à des trentenaires. Donc allez-y, si vous entendez ça, créez des chaînes YouTube, parlez à un maximum de gens, jouez aux jeux vidéo et puis parlez des idéaux de la gauche, quoi.
En voilà une bonne idée. Occuper le bitume, mais aussi occuper le bitume virtuel des idées. Vincent fait référence au milieu de l'interview à un podcast d'Arte Radio. Le podcast se nomme Gardien de la paix. Si vous êtes passé à côté, allez y jeter une oreille. Et surtout, n'oubliez pas votre sac à vomi, ça pourra vous servir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Marie-Eugénie, à Elsa, Corinne, Nora et à la fille de Valence. Merci à Olivier, à Gilles et à Vincent. Désolé aux Brigitte Macron et à Christophe le photographe de vous avoir zappé de ce montage. Des entretiens menés par Sébastien Roblin de l'association Résonance. Mixage par Indie Grand et musique par Le Bazar Sonic. Bon, le son crépitait un peu de temps en temps, mais j'espère que les messages et les paroles ont bien été entendus. Si vous voulez réécouter cette émission, la partager dans vos réseaux, car oui, c'est sympa, ou découvrir les autres épisodes, rendez-vous sur la page mixcloud.com/surlaroute. Et si vous voulez connaître l'actualité de l'association Résonance, rendez-vous sur le facebook.com/associationresonance. Résonance, R-E-Z-O-N-A-N-C-E. Sur la route, une série de portraits radiophoniques.